deux semaines, on a partagé ensemble sur une vie, une rencontre qui transforme, qui nous change, qui change nos vies, qui change qui on est, notre façon de penser et tout ça. J'ai parlé de Jésus-Christ et on a vu dans la parole comment Jésus est celui qui change et qui transforme les vies. Et ce matin, j'aimerais aller dans une deuxième de cette série-là, qui est une rencontre qui transforme, et je veux parler avec vous du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Je veux parler de cette rencontre avec le Saint-Esprit. Et bien sûr, lorsqu'on a donné nos vies au Seigneur Jésus, il y a cette dimension où le Saint-Esprit vient et habite en nous. Et bien sûr, cet accomplissement, d'ailleurs, il nous a convaincus, la Bible nous dit qu'il nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Et à travers cette conviction-là à l'intérieur de nos vies, alléluia, il nous a amenés à ce besoin de ce pardon-là où on reconnaît notre besoin d'être pardonné, d'être changé, d'avoir, et que Jésus est ce Messie qui a donné nos vies. Mais à travers le moment où on accepte Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, le Saint-Esprit habite en nous. Mais dans la parole de Dieu, il y a une dimension que des fois on oublie, qui est, alléluia, cette expérience ou ce moment, cette rencontre, je dirais, que les disciples ont eu à la Pentecôte. Et lorsqu'on regarde cette rencontre-là, alluia, qui s'accomplit, ça l'a changé et ça l'a transformé la vie de ces hommes et de ces femmes cette journée de la Pentecôte. Il y a eu un impact dans la vie de ces hommes et de ces femmes et dans la parole, il semble parler, pas il semble, mais il parle, il déclare, alléluia, deux expériences, c'est-à-dire l'expérience au salut, et elle parle de cette expérience-là du baptême dans le Saint-Esprit. J'aimerais nous dire ceci, la personne du Saint-Esprit, comme la personne de Jésus, comme la personne du Père, elle n'est pas forcée, c'est-à-dire Jésus ne nous oblige pas de l'accepter, le Saint-Esprit ne nous oblige pas de lui permettre d'accomplir et de faire ce qu'il veut faire à l'intérieur de nos vies, mais si on est prête, il est avantageux, comme Jésus va dire, que la personne du Saint-Esprit soit là, manifeste à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Et lorsqu'on regarde dans la Bible, on découvre comment, alléluia, le Saint-Esprit est celui qui a fait une œuvre. Ici, à l'Église, on est une Église de Pentecôte et nous croyons dans le baptême du Saint-Esprit. Nous croyons dans cette relation-là, dans cette, non seulement une expérience, mais dans quelque chose que le Saint-Esprit fait à l'intérieur de nos vies. Et lorsqu'on regarde dans la Bible, Jésus va parler très clairement par rapport au Saint-Esprit. Jésus va parler même d'une rencontre avec le Saint-Esprit. Elle va parler d'une façon claire de cette rencontre dans Actes chapitre 1, le verset 1, alors qu'il est dit à ce moment-là, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et enseigné dès le commencement. Je vous dis que le Saint-Esprit, pour la personne de Jésus, il l'a enseigné, il l'a instruit ses disciples, bien sûr, de ce qu'il était pour faire, de ce qu'il faisait, et de cette dimension du jour de la Pentecôte. Et ça dit, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, alors c'était présent dans la personne de Jésus, avec la personne de Jésus aux apôtres qu'ils avaient choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses. Alors, pendant ces 40 jours-là, Jésus a proclamé, il a parlé, il a déclaré, le Saint-Esprit faisait partie de cela. Ça dit comme il se trouvait avec eux. L'une de ses recommandations, l'une de ses ordres à travers le texte qui semble que la parole déclare, ça dit, il recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Déjà dans ce texte-là, moi, j'ai pas de doute que le moment où Jésus était là avec les disciples, que les disciples étaient des chrétiens, que les disciples étaient nés de nouveau, qu'ils ne sont pas nés de nouveau le jour de la Pentecôte, mais qu'ils étaient nés de nouveau à ce moment-là. Et Jésus dit, il y a quelque chose que vous allez, une rencontre qui va faire, qui va transformer, qui va changer Pierre. Et à travers ça, Jésus est en train de présenter cette personne du Saint-Esprit. Lorsqu'on regarde aussi dans la parole, le Père a présenté Jésus. J'ai pas de doute que quand, par exemple, dans Matthieu chapitre 3, le verset 17, où Dieu va dire, et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles, ceci est mon Fils bien-aimé. J'ai pas de doute de la présentation que le Père va faire de Jésus-Christ. Je ne mets pas en doute la personne de Jésus-Christ. Et je ne mets pas en doute la parole du Père dans le fait de qui Jésus était dans sa divinité à cause. Les gens veulent mettre en doute. Les gens veulent attaquer la divinité de Jésus-Christ. Mais à travers ça, la parole déclare de façon claire, il y a une présentation. Et Jésus est celui qui va présenter le Saint-Esprit. Il va le faire, par exemple, dans Jean chapitre 15, verset 26. Ça dit, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. » Alors, il y a la dimension du Père, du Fils qui est là. Ça dit, « L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage. » Jean chapitre 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. » Et là, il présente encore la dimension du Saint-Esprit. Le verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. » Alors, il y a toute la dimension où Jésus parle d'une façon très claire, sans ambiguïté, de la personne du Saint-Esprit dans cette divinité. Et lorsqu'il parle de cette personne-là, il parle d'une personne divine. Le Saint-Esprit est une personne divine. Et c'est la raison pour laquelle il a toute la possibilité de changer, de transformer, d'accomplir, de faire une œuvre à l'intérieur de nos vies. Et c'était une personne qui est importante. Lorsqu'on regarde dans la Bible et qu'on parle de la divinité, on voit que le Saint-Esprit est omniprésent, omnipotent, omniscient, qui est immuable. On voit ça dans Hébreux chapitre 9, verset 14, dans Psaume 139, du verset 7 au verset 10. Et à d'autres endroits dans la Bible où on voit que le Saint-Esprit était pleinement divin dans sa personne. Alors, il était une personne, Jésus parle du Saint-Esprit comme une personne importante. Il est possible quelquefois que la personne du Saint-Esprit, dans certaines choses, manifestations qui peuvent prendre place, nous fasse certaines, ou que l'on ait certaines craintes ou certaines peurs. Je vais vous dire ceci, on a besoin de comprendre ce qui est du Saint-Esprit de sa personne et de ce qui ne l'est pas. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des choses mauvaises que ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas accomplir et faire des choses, et que certaines choses sont aussi de la part du Saint-Esprit, même si ce n'est pas toujours compréhensible à la lumière même de ce que nous, on peut comprendre des choses. Je vais vous dire ceci, si le Saint-Esprit est aussi vrai attaqué que des choses fausses, je vais vous dire que c'était fait dans le Nouveau Testament, il y a eu des choses que les disciples ont dû adresser, qui semblent être de la personne du Saint-Esprit et qui ne l'étaient pas. Et on découvre même que la personne de Jésus-Christ a été aussi attaqué. On a commencé à dire de Jésus ce qu'il n'était pas non plus. Et ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des faussetés qui ont été dites sur la personne de Jésus, que cela n'était pas vrai de ce que Jésus était. Mais c'est aussi vrai dans la personne du Saint-Esprit. Alors, on n'a pas besoin d'avoir peur. On a juste besoin de comprendre qui il est, de saisir qui il est. Et Jésus va parler dans cette présentation de l'importance de la personne du Saint-Esprit. Non pas seulement à l'Église, des fois on regarde la personne du Saint-Esprit dans une dimension d'Église, dans une dimension que lorsqu'on est, on fait un groupe connexion, que quand on fait un culte familial ou quelque chose, mais on regarde tellement ça dans la dimension de l'Église, de la rencontre de l'Église, mais je pense qu'on est en train de limiter la personne du Saint-Esprit dans la dimension de sa totalité à l'intérieur de ma vie constante, que ce soit à mon travail, que ce soit dans ma responsabilité en tant que père, que ce soit dans ma responsabilité en tant que pasteur, que ce soit dans ma responsabilité, de votre responsabilité en tant que travail de là où vous êtes, dans votre situation, dans vos accomplissements. Je crois que pour les jeunes hommes, les jeunes filles qui sont à l'école, le Saint-Esprit veut être un aide, non seulement pour témoigner dans votre école, non seulement pour être une lumière dans votre école, mais pour bien réussir votre école, pour vous aider dans la dimension même académique de vos vies, de rendre cette intelligence, d'ouvrir une capacité que des fois, même humainement parlant, alléluia, on n'a même pas certaines capacité, mais que le Saint-Esprit veut être avec nous, changer nos cœurs peut-être d'abord et avant tout pour qu'on apprenne à voir les bénéfices de l'école, pour apprendre à aimer l'école, pour apprendre à juste saisir et d'aller plus loin par rapport à certaines choses dans lesquelles Dieu nous donne. Je pense que le Saint-Esprit veut nous donner la créativité. Je pense que le Saint-Esprit est celui qui veut nous donner la capacité d'enseigner nos enfants. Je vais vous dire, parents, ce matin, vous prêchez plus souvent que moi. Alors, si vous priez, j'espère que le pasteur va être rempli du Saint-Esprit dimanche, là. Je vais vous dire, alléluia, que vous avez besoin de... C'est bien, vous devez le faire, OK? J'espère même que vous le faites. Si vous ne le faites pas, faites-les. Mais je vais vous dire que vous en avez besoin dans votre vie quotidienne parce que vous enseignez, vous instruisez, vous prêchez à vos enfants, à vos petits-enfants, aux gens qui vous entourent au travail, dans la situation de ce qui peut se passer. Vous avez besoin de la personne et nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit. Et Jésus va parler d'une attente. Et lorsqu'il parle d'une attente, dans Actes chapitre 1, le verset 3, ça dit à ce moment-là, le verset 4 plus précisément, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Alors, il y a certaines choses, je vais attirer votre attention dans ce texte-là, qui est tellement important. La première, c'est le fait d'une attente. Mais je vais vous dire, l'attente, ce n'est pas juste attendre, mais s'attendre à quelque chose. Je vais vous dire que Jésus, dans ce texte-là, n'amène pas seulement la dimension aux disciples, d'attendre, de juste être patient par rapport à quelque chose. Mais il crée en eux une attente, un désir. Pour moi, le texte n'amène pas juste la dimension d'attendre quelque chose, quand est-ce que ça va arriver, mais plutôt d'espérer que ça l'arrive. Alors, dans cette attente-là, dans la personne de Jésus-Christ, il amène vraiment la pensée d'une attente de ce qui est là. Non seulement cela, mais le texte dit que cette promesse-là, en est une, pas seulement de lui, mais du Père, de la divinité, de la Trinité dans laquelle ils étaient. Et le texte amène la pensée qu'il y a une promesse, ce que le Père avait promis. Et la troisième chose que le texte nous enseigne, nous amène, c'est une annonce, une déclaration par rapport à Jésus-Christ. Et bien sûr, cette annonce, c'est ce que Jésus avait fait dans l'Évangile de Jean, par exemple, au chapitre 16, lorsqu'il va parler du Consolateur, qui devait venir. Alors, il devait attendre, espérer et avoir la foi que la promesse du Père et ce que Jésus leur avait annoncé prendrait place à l'intérieur de leur vie. Ce matin, j'aimerais nous poser la question, est-ce que nous avons aussi en nous cette espérance? Est-ce qu'il y a cet espoir à l'intérieur de nos cœurs? Peut-être que ça fait un certain nombre d'années qu'on connaît le Seigneur, peut-être ça fait même un certain nombre d'années qu'on espère être rempli du Saint-Esprit. Alléluia, puis c'est pas arrivé encore. Des fois, on a arrêté d'y croire, des fois, on a perdu courage, des fois, on a simplement laissé ça de côté. Mais j'aimerais nous dire que le texte ne dit pas combien de temps, ne dit pas combien de moments, mais la Bible dit d'attendre, et d'attendre dans le temps, mais d'attendre aussi dans l'espérance. Ça dit à ce moment-là, dans Actes chapitre 2, verset 38, ça dit, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Non seulement ce que Pierre avait reçu, cette rencontre-là avec le Saint-Esprit, Pierre croyait que cela était aussi vrai pour les gens. Ça dit, comme Jésus-Christ, comme le pardon du péché était pour eux, le baptême dans le Saint-Esprit ou cette rencontre avec le Saint-Esprit, je pense que Pierre, avec ses gens, avait été pardonné qu'ils étaient des chrétiens quand il les a vus. Mais à ce moment-là, il dit, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Le texte amène vraiment à la pensée qu'il n'y a pas d'exception de personne. Il n'y a pas d'exception de personne, c'est pour chaque personne, pour les enfants. J'ai entendu un témoignage. Dernièrement, je suis dans un endroit, je suis en train de discuter avec quelqu'un qui connaît le Seigneur depuis. Je connais même son père qui a été un pasteur, qui a servi dans une église. Et à travers ça, cette personne-là racontait qu'elle avait été baptisée du Saint-Esprit à l'âge de 7 ans. Remplie, baptisée. Sa vie a été changée. Le texte dit, c'est pour vos enfants. Alléluia, c'est pour ceux qui sont au loin. Jésus va dire d'attendre à Jérusalem, mais le texte est en train de dire que ça n'a pas besoin que juste la chose ne se passera pas nécessairement seulement à Jérusalem, mais c'est aussi au loin, c'est aussi au Québec, c'est aussi à Shawinigan. Alléluia. Puis le texte dit en aussi grand nombre. C'est pas que ça s'épuise, c'est pas, il y en a pour un certain nombre. Après qu'il y en aura 30 000 qui ont été baptisés pour les autres, ben just too bad. C'est pour chaque personne. Et on a besoin, je vais vous encourager ce matin, à garder courage, de ne pas perdre d'espoir, de continuer à croire que le Saint-Esprit est celui qui veut vous rencontrer de cette manière, qui veut et celui qui veut vous rencontrer de cette manière. C'est une promesse qui a été faite. Jésus va dire à ce moment-là, mais vous recevrez, au verset 8 d'acte 1, ça dit vous recevrez une puissance. Ça va être pour vous le Saint-Esprit qui va survenir sur vos vies. Des fois, alléluia, on perd de vue, mais ça dit que c'est pour chacun d'entre nous. Alors, je veux juste vous encourager, peu importe le nombre de temps, continuez de croire, continuez de le vouloir, continuez d'espérer, continuez, alléluia, de savoir que cette promesse, c'est aussi pour chacun d'entre vous et d'entre nous. On a besoin de cette rencontre. Les disciples avaient besoin de cette rencontre. Ses disciples avaient besoin de recevoir. Je veux nous attirer dans une dimension par rapport à lorsque Jésus va parler dans Jean chapitre 16, le verset 5. Jésus parle et va dire aux disciples à ce moment-là, il va parler de sa mort. Quand tu lis le texte un peu auparavant, le texte va même parler que les disciples vont vivre la persécution, vont vivre des situations terribles à l'intérieur de leur vie. Et lorsque Jésus va leur parler de ça, le texte dit, qu'il y a au verset 6, mais parce que je vous ai dit ces choses, ça dit la tristesse a rempli votre cœur. L'idée de la tristesse ici, c'est pas seulement de quelqu'un qui est juste triste, mais c'est une affliction. L'idée même du grec, c'est l'idée d'une douleur à l'intérieur, qu'il y a une souffrance. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, sûrement. Peut-être même ce matin que vous êtes dans cette dimension-là, à cause de choses qui prennent place à l'intérieur. Il y a comme une boule, il y a comme quelque chose qui fait mal, il y a comme quelque chose à l'intérieur de ta vie qui est comme presque dans la dimension, qui est en train de mourir, il y a une souffrance là qui est presque incompréhensible, qui est là, qui prend place. Et dans le texte, Jésus prend conscience ou est en train de déclarer ce qui prenait place à l'intérieur de la vie de ces hommes qui sont là, ça dit, mais parce que je vous ai parlé de ma mort, parce que je vous ai parlé de la dimension qu'il va y avoir de la persécution, ça dit la tristesse, l'affliction, la douleur. Et le texte dit quelque chose qui est important, ça dit que ça leur remplit, il y a une dimension à l'intérieur de leur vie qui a été remplie par cette douleur-là et par cette tristesse-là. Et là, c'est à ce moment-là que Jésus parle de la dimension, et là, le texte, le terme qui est pris, c'est le terme en grec « paraklé » qui veut dire, ou « parakletos », qui veut dire « qui va être à tes côtés ». Mais dans la pensée du texte, c'est que le Saint-Esprit va être un consolateur, celui qui va enlever cette affliction, cette douleur à l'intérieur de la vie de ses disciples. Alors, il y avait un besoin, et ce matin, peut-être que des fois dans nos vies, on vit cette douleur-là à cause d'une situation particulière dans le couple, dans la famille, dans notre vie personnelle, une déception de nous-mêmes, quelque chose, une nouvelle qu'on apprend. Je me rappelle un moment dans ma vie, il y a quelque chose qui arrive, et il y a une nouvelle que j'apprends, et à travers la nouvelle que j'apprends, il y a une dimension d'une affliction profonde qui prend place, une douleur qui prend place, une colère même qui prend place à l'intérieur de mon cœur, qui j'ai de la difficulté à contenir, que j'ai de la difficulté à gérer à travers tout ça. Et dans mon cœur, il y a une pensée qui vient. Si seulement je peux juste prendre un moment dans la présence de Dieu, que le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse commencer à changer et enlever, que ce consolateur peut changer cette douleur et transformer cette douleur-là. Et on a besoin qu'à travers ces moments de nos vies d'inquiétude, des moments qui peuvent arriver, où on a besoin que le Saint-Esprit vienne et saisisse nos cœurs et commence à être ce consolateur, ce paraclet qui va enlever cette douleur, qui va enlever cette affliction, qui va faire qu'elle ne remplira plus, mais alléluia, que l'on plutôt on va être rempli du Saint-Esprit et qui va changer nos cœurs. Vous savez, il y a tellement de situations, il y a tellement de choses et tellement de fois où j'ai besoin, alléluia, que le Seigneur est celui qui enlève, que Dieu est celui qui dépose à l'intérieur de nos vies. On a besoin, alléluia, de recevoir cette instruction. Jean 16, chapitre 16, verset 12. C'est dit, Jésus va dire, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, ce n'est pas le bon moment. Il dit le Saint-Esprit, alléluia, mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Combien de fois vous avez besoin, et j'ai besoin dans ma vie, d'entendre cette vérité-là, d'entendre une vérité, alléluia, une proclamation qui est autre que ce que le diable, des fois, veut proclamer, et que trop souvent, je prends comme des vérités. mais j'ai besoin d'entendre, alléluia, la parole du Saint-Esprit, confronter le mensonge et amener la vérité à l'intérieur de ma vie. Et c'est ce que le Saint-Esprit va faire dans la vie de ces hommes et de ces femmes au jour de la Pentecôte. Combien de fois, alléluia, on a besoin pour accomplir les responsabilités, la mission donc que Dieu nous donne. Rappelons-nous, alléluia, dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Alors, faites de toutes, Jésus va dire aux disciples, alors, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. Le texte continue. Vous savez, nous, on lit ce texte-là, puis c'est comme si, pour nous, il y a quelque chose de simple. Mais je vais vous dire que c'est tout un mandat, que c'est toute une responsabilité qui est donnée aux disciples. Les disciples avaient vu Jésus le faire. Il avait même fait, parce que Jésus les avait envoyés, il avait même fait, mais Jésus était là. Et là, la dimension qu'il leur demande de le faire, c'est Jésus n'est plus là physiquement. Et à travers cette responsabilité-là, probablement dont ces hommes-là n'avaient pas été ça jusqu'à maintenant, Pierre n'avait pas été un programmateur de la bonne nouvelle jusqu'à maintenant comme Dieu l'appelle à faire. C'était quelqu'un qui était un excellent pêcheur, quelqu'un qui accomplissait probablement avec beaucoup d'audace ce qu'il faisait au niveau de son métier. Mais le Seigneur est en train de l'amener dans une dimension qui ne semble pas avoir été une dimension dans laquelle il a appris à l'intérieur de sa vie, par son travail. Bien sûr, Jésus a été 3 ans avec eux, mais c'est toute qu'une responsabilité. Et là, en Acte chapitre 1, Jésus adresse cette même parole par rapport à l'accomplissement ou à l'appel que Dieu demande sur leur vie. Ça dit, mais vous recevrez une puissance, et le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alléluia, le texte dit, et fait pour moi un rapport très clair, un rapprochement. Jésus est en train de lier le mandat de Matthieu chapitre 28, alléluia, à ce qu'il devait faire, à ce que le Saint-Esprit leur donnerait de s'accomplir. Et là, c'est dit, ce que je vous ai demandé de faire, ce qui va faire que vous allez être capables, c'est dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et là, le texte dit, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que Jésus est en train de dire, vous allez recevoir une puissance et ça va vous rendre capable de faire ce que Dieu vous mandate de faire. Je ne sais pas pour vous, mais alléluia, à l'intérieur de ma vie, j'ai besoin de cette aide-là dans les responsabilités que Dieu me donne. Tantôt, je vais parler un petit peu de cette dimension-là, je vais y revenir. Et rappelons-nous que le Saint-Esprit, celui qui veut être avec vous, que le Saint-Esprit est là pour, et le baptême est là afin de nous aider dans nos responsabilités, dans nos accomplissements à l'intérieur de nos vies. C'est une promesse qui va avoir changé la vie des disciples. C'est une promesse dans Actes 1, 8, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vos vies vont être changées, vos vies vont être transformées. Est-ce que ça va faire qu'il n'y aura plus de combat? Non. Est-ce que ça va faire qu'il n'y aura plus de bataille? Non. Est-ce que ça va faire que les responsabilités vont être moins grandes? Non. Mais ça va faire que le Saint-Esprit va devenir une aide dans notre quotidien, nos vies. Alléluia, il va être avec nous, pas seulement dans une transformation de nos cœurs, mais même dans les dons spirituels, même dans l'accomplissement de ce que Dieu nous demande de faire, d'avoir le discernement des esprits à travers certaines choses, des situations, et comprendre que le Saint-Esprit veut être avec nous pour changer, alléluia, et ça va faire une transformation à l'intérieur de nos vies. Cette rencontre-là avec Jésus, alléluia, nous donne la possibilité d'avoir une rencontre avec le Saint-Esprit. C'est la porte d'entrée, c'est la possibilité qui nous est donnée dans Actes chapitre 8, le verset 12. Ça dit dans ce texte-là, et je veux surtout m'arrêter à partir du verset 14, mais je veux dire encore là que le texte parle hommes et femmes qui étaient là. C'est-à-dire que c'était pour tout le monde. C'était pas pour un groupe de personnes, c'était pas pour juste les disciples, c'était pas juste pour les hommes, c'était pas juste pour les femmes, c'était pour tout le monde. Et le verset 14 dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie, alors c'était pas juste à Jérusalem, mais c'était aussi en Samarie, c'était aux extrémités, chaque personne, en aussi grand nombre, aussi loin que peut-être, pouvait recevoir, alléluia, cette puissance du Saint-Esprit. Ça dit qu'ils avaient reçu la parole de Dieu, c'était des chrétiens. Ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, c'était pas des Juifs nécessairement, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'avaient pas encore, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils n'avaient pas été encore baptisés. Ils étaient sauvés, le Saint-Esprit avait cette dimension en eux, mais le baptême, et là, ça dit à ce moment-là, quand ils n'avaient pas encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et ça symbolisait quoi? Leur salut, le baptême d'eau. Alors Pierre et Jean leur imposa les mains et ils reçurent, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Alors c'était pour chacun, chaque personne qui ont Jésus-Christ à l'intérieur de leur vie. Et la puissance, alléluia, de cette rencontre, et c'est elle qui a changé, qui a transformé leur vie. En fait, ce qui est arrivé, dans Actes chapitre 2, le verset 1, vous pourrez le lire plus particulièrement à la maison si vous voulez, mais le texte nous montre comment la chose est arrivée. Jésus leur avait dit d'attendre à Jérusalem, d'être là. Le texte nous dit qu'ils se rassemblaient de façon chaque jour, ils étaient au temple, qu'ils étaient unis ensemble, il y en avait environ 120 dans la chambre haute lorsque ils ont été baptisés, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et Actes chapitre 2, le verset 1 dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors, tantôt quand on a chanté que le Saint-Esprit puisse remplir l'atmosphère, je vais vous dire que c'est ce qui a pris place à l'intérieur de la chambre haute à ce moment-là. Et ça dit, alléluia, que des langues de feu, que des langues semblables à des langues de feu, c'était semblable, leur apparurent séparés les uns sur les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, ils étaient là, ce qu'ils faisaient, ils louaient Dieu, ils glorifiaient Dieu. Dans le but, alléluia, c'était pas d'abord et avant tout, de simplement dans une recherche de quelque chose qui était là, mais ils étaient là pour glorifier Dieu, pour rendre la gloire au Seigneur, ce qui les rendait dans une dimension, dans la présence de Dieu, de pouvoir recevoir. J'aimerais juste dire ceci, quand c'est dit en Samarie au loin, les gens peuvent être à la maison, agenouillés aux côtés de leur lit, peuvent être à la maison, dans leur salon, des gens dans leur voiture ont été baptisés du Saint-Esprit. Des gens dans des camps à l'extérieur, dans la nature, ont été baptisés. Des gens qui étaient agenouillés aux côtés de leur lit. J'ai même entendu dire quelqu'un qui a été baptisé alors qu'il était en train de prendre sa douche. Le Saint-Esprit, celui qui l'a rempli à ce moment-là. Et sa vie a été changée à ce moment-là. Alors, ils ont été baptisés. Le texte dit qu'il y a des langues. En fait, ce qui a pris place là, ça ne veut pas dire que c'est toujours de la même manière que les choses prennent place. Jésus n'est pas en train d'amener, ou plutôt la parole n'est pas en train d'amener une dimension que toujours comment il faut que ça se fasse. Il n'y aura pas toujours des langues de feu, il n'y aura pas toujours des gens qui sont là, puis d'être un groupe et tout ça. Ça peut être, comme j'ai dit, chez toi à la maison, ça peut être à l'église. Ce matin, on va prendre un temps, on va prendre un moment, mais ça peut être à ton travail, ça peut être dans ton temps de culte personnel, où tu sais, et encore là, c'est pas mystique, je veux juste dire ceci, le baptême du Saint-Esprit ou être rempli du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose de mystique en soi. Trop souvent, c'est ce qu'on a fait. Trop souvent, c'est ce qu'on a amené. Tu vas commencer à trembler. Si tu trembles pas, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. Chaque personne, alléluia, sont une dimension, le vivre dans la dimension que le Saint-Esprit veut le faire et veut l'accomplir. Et ces gens-là ont été remplis, ont été baptisés. Cependant, c'est le même esprit. Mais ce n'est pas toujours de la même manière. Ces gens-là ont été baptisés, le texte dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Dans un instant, je vais amener cette dimension-là. Mais ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et encore là, souvent, je veux dire ceci, le être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Le parler en langue dans la Bible, alléluia, c'est plutôt ce qui certifie que l'on a été baptisé. Des fois, on pense que la puissance, c'est le parler en langue. Mais en fait, dans le texte, à plusieurs autres endroits, alléluia, le parler en langue certifiait le fait qu'ils avaient reçu la façon dont les disciples pouvaient voir que les gens avaient été baptisés, c'est qu'ils parlaient en d'autres langues. C'est ce que le texte dit, ce qui est arrivé pour eux. Ils ont, regardez bien, des langues, bon, tout ça. Et ça dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler. Mais le baptême du Saint-Esprit, là, c'est le Saint-Esprit qui nous remplit. Et il y a le don des langues qui vient, qui prend place, qui est là. Mais c'est ce qui peut certifier, ce qui donne, de voir qu'il n'y a plus de doute en soi. Qui donne, il y a quelque chose de visible. Là où j'étais, c'était drôle parce que la semaine dernière, on était dans une chose de notre convention pastorale. Et il y avait un prédicateur qui était là, il parlait, puis il a parlé un peu de ça. OK? puis il disait ceci, il disait que c'est un peu comme quelqu'un, le parler en langue, c'est comme un peu quelqu'un qui est à la porte. Pour savoir qu'il est à la porte et qu'il y a vraiment quelqu'un là, il va soit cogner ou sonner sur la sonnette. Puis ça, ça va nous donner de savoir qu'il y a vraiment quelqu'un à la porte. Maintenant, lorsque je veux juste dire ceci, il ne faut pas non plus seulement diminuer le parler en langue au signe, ou plutôt à la certification. J'aime mieux le mot certification même que signe. Parce que si on arrête ça à cette dimension-là, on perd la dimension de ce que le parler en langue aussi a un impact ou un effet. Parce que dans la parole, ça dit ceci, alléluia, que par rapport au parler en langue, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, ça dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Alors, ça a une puissance d'édification. Dans mon temps de culte personnel, je prie en langue. Dans mon temps avec le Seigneur, je prie en langue. C'est en train de m'édifier. La Bible même dit même, alléluia, qu'on peut prier en d'autres langues. Ça a une dimension de force et de puissance. Il ne faut pas, même si le parler en langue n'est pas en soi le baptême du Saint-Esprit, mais plutôt ce qui certifie, il reste quand même. Et c'est la raison pour laquelle je pense que, et puis là, je suis pas Dieu, mais l'une des raisons pour lesquelles je crois que le parler en langue était une certaine certification, c'était aussi dans la puissance de pouvoir le faire, de pouvoir être capable de le faire. Ou des fois, dans notre propre intelligence, on a plus les capacités, on a aussi plus trop, mais on fait juste commencer à prier, à intercéder en d'autres langues. Et la Bible dit qu'on est en train de s'édifier soi-même. La Bible va même dans 1 ou 2 Corinthiens, chapitre 12, j'ai pas oublié de marquer au côté, non? Ça dit, je pense, c'est 2 Corinthiens. Ça dit à un autre, le don, et là, il parle des dons spirituels. Et là, il dit à la fin, la diversité des langues à un autre, l'interprétation que cette langue-là, ou se parler en langue-là, devient une dimension prophétique dans l'accomplissement. Et ça, il y a une dimension de comment fonctionner, marcher à l'intérieur du corps. Mais il y a vraiment une dimension que c'est là et que ça doit prendre place à l'intérieur de nos vies. Alors, n'arrêtons pas et ne diminuons pas le fait de parler en langue à la dimension de seulement un signe et ne diminuons pas non plus, ou plutôt ne caractérisons pas les choses dans ce qu'ils ne sont pas. Le parler en langue n'est pas en soi le baptême, le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Mais ça nous donne d'une certification de ce baptême-là. Et le parler en langue a un impact dans ma vie dans lequel je peux prier, je peux prier en d'autres langues, je peux louer Dieu entre autres langues, et tout ça, et c'est ce qui a pris place. Et même dans le temps des apôtres, des disciples, des gens qui étaient là, il y avait même des gens qui connaissaient. Je pourrais vous raconter, je me suis empêché de le faire, mais même quand je vous parle, je pourrais vous raconter des histoires que j'ai entendues, qu'on a vécues, par rapport au don des langues, de personnes qui est dans une église, qui donne une parole, ou plutôt qui prie en langue, et ça fatigue un peu les gens, avec tout ça, parce que cette personne-là donne toujours jusqu'au temps où quelqu'un d'un autre peuple qui vient de nulle part, en fait, et qui comprend, et à ce moment-là, à cause de la parole qui est là, la personne donne sa vie au Seigneur, convaincue de péché, et sa vie est complètement changée par Jésus-Christ. Alors, bien sûr, il y a une façon de procéder dans l'intérieur de l'Église. Je ne veux pas m'arrêter sur cette dimension-là. Paul donne certaines instructions par rapport à ça. Alors, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir, et probablement, pas probablement, mais Paul dit certaines choses en fonction qu'il y ait l'harmonie, en fonction qu'il y ait la bénédiction, en fonction que ça devienne vraiment une bénédiction au sein du corps lorsqu'on est ensemble. Mais on a besoin de ce baptême-là à l'intérieur de nos vies. C'est nécessaire. Et à ce moment-là, leur vie, le texte nous donne de voir que la vie de ces hommes ont été changées, que la vie de ces hommes ont été transformées. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 17, ça dit, « Or l'Esprit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Ici, le Seigneur, c'est l'Esprit, là. C'est à cause de ce que le texte dit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le texte dit, il n'y a pas d'ambiguïté dans le fait de ce qui est là. Et la vie de ces hommes ont été changées. Et cette rencontre-là a été transformée, ont été changées à l'intérieur de leur vie. Et j'aimerais nous dire ceci, alléluia, ce matin, on a besoin de cette rencontre qui va demeurer. Je vais vous dire que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le but à atteindre. Ce n'est pas l'échelle que tu dois atteindre. Trop souvent, on a regardé, alléluia, dans cette dimension-là, comme l'échelle à atteindre. C'est comme si c'était ce qui était le plus spirituel à atteindre. Puis que si des gens dans l'Église ne l'avaient pas, ils n'étaient pas trop spirituels ou ils étaient moins spirituels. Je vais vous dire que dans la Bible, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On a besoin, c'est pas le but à atteindre. Le but, c'est pas la finalité de quelque chose. Mais c'est plutôt de comprendre le besoin de ce baptême-là dans ma vie d'aujourd'hui. Je vais vous dire, alléluia, que si même j'étais rempli du Saint-Esprit à bas âge, à 10 ans, en ce qui me concerne, j'ai besoin à chaque jour d'être rempli du Saint-Esprit. J'ai besoin, alléluia, qu'il soit là. J'ai besoin que le Saint-Esprit soit là avec moi dans mes responsabilités, dans mes accomplissements. Quand je regarde la vie de Pierre, cet homme-là qui lui est con, que Jésus, alléluia, lui demande de paître ses brebis, alors qu'il voyait en lui toute cette faiblesse, n'a même pas la capacité de se lier, mais plutôt va le renier, ne voit même pas en lui la capacité de juste déclarer qu'il était un disciple. Puis maintenant, Jésus me demande de paître son troupeau. La marche est haute. Quand je regarde cet homme qui se retrouve à la Pentecôte, alléluia! D'ailleurs, je pense que la fête de la Pentecôte, c'est dimanche prochain. Fête de la Pentecôte. Lorsqu'on regarde Pierre qui se retrouve là devant des milliers de personnes, alors que avec juste un groupe qui sont là autour de lui quand Jésus est pris, il y a juste un groupe, quelques personnes, et une personne va le voir puis dire, « Me semble que je t'ai vu avec Jésus, me semble que je t'ai vu avec le Messie. » Puis là, tout d'un coup, Pierre commence à dire, « Non, non, je ne le connais pas. Ils ne sont pas 1000, ils ne sont pas 2000, ils sont 3, 4 autour de lui. Une personne qui s'adresse, une autre personne vient le voir, « Non, non, je ne le connais pas. » Et tout à coup, alléluia, alors du jour de la Pentecôte, les gens sont là, des milliers de personnes. Le texte dit, alléluia, qu'il y a environ 3000 personnes qui vont donner leur vie à Jésus-Christ cette journée-là, à cause que Pierre va prêcher la parole de Dieu, qui maintenant, alléluia, l'Esprit de Dieu va simplement se servir de lui pour amener des milliers de gens, alléluia, à donner leur vie au Seigneur. Je vais vous dire ceci, le Saint-Esprit n'a pas rendu Pierre plus grand. Mais le Saint-Esprit a rendu Pierre capable. Je vais vous dire ceci, alléluia. Lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur, dans toutes les responsabilités, dans tout ce qu'on est, si vous êtes comme moi, j'aimerais vous dire que cela est aussi vrai pour nous. On ne se sent pas nécessairement grand. Mais alléluia, je veux croire que par le Saint-Esprit, je vais être capable. Lorsqu'on a été voté comme pasteur à l'église de Sainte-Agathe, j'avais 22 ans. Lorsqu'ils m'ont appelé, j'étais à la maison, il y avait le vote. Quand ils m'ont appelé à la maison pour me dire, « Pasteur, vous avez été voté ce matin, ou après-midi, je pense que c'était le matin, fin de la réunion. Vous avez été voté comme le pasteur de l'église. » Et la personne au bout du fil m'a félicité. Puis j'étais dans, pas trop sachant quoi dire, parce que ce n'était pas la joie dans mon cœur à ce moment-là, mais la petitesse qui m'a saisi de qui j'étais. Seigneur, je vais être incapable. Je l'ai fait parce que tu m'as demandé de le faire. Mais Seigneur, je me sens tellement petit devant tout ça. Seigneur, je me sens tellement petit devant toute cette responsabilité-là. Et à ce moment-là, alléluia, le Seigneur est celui où j'ai dû croire. Saint-Esprit, tu es celui qui va être avec moi. Tu es celui qui va nous rendre capables, celui qui va nous donner, alléluia, la possibilité ou la capacité, alors qu'humainement parlant, c'est toujours plus grand que nous. Cela est encore vrai aujourd'hui, peuple de Dieu. Je me présente devant vous chaque dimanche avec un sentiment tellement de petitesse dans mon cœur, dans la responsabilité de prêcher la parole de Dieu devant les besoins, devant les situations particulières, devant les choses qui peuvent prendre place, dans les situations de corps, de maladie, dans les situations de travail ou autres qui prennent place à l'intérieur de nos vies. On se sent tellement petit devant toute cette responsabilité-là, de juste proclamer la parole de Dieu, de juste pouvoir déclarer cette parole de Dieu. Mais à travers tout ça, alléluia, on a besoin de croire à chaque jour que le Saint-Esprit peut nous rendre capables. Probablement dans plein de situations dans votre vie, pour le salut de vos familles, pour votre mari, pour votre épouse, pour vos enfants qui ne connaissaient pas, qui ne connaissent pas le Seigneur, où vous avez tout essayé de tout ce qui était imaginable, de tout ce que votre pensée pouvait penser, imaginer. Dans une situation avec vos enfants, une décision ou de quelque chose qui prend place dans votre vie personnelle quotidienne, dans votre responsabilité en tant que père, messieurs, ce matin, en tant que mère, mesdames, ce matin, vos petits-enfants, les grands, les grands-parents, les situations qui, des fois, le découragement prend place à l'intérieur de nos vies où on se tente, où on n'est tellement pas capable, où on n'est tellement pas toutes les possibilités, les capacités. Comment, des fois même, on a été découragé que les choses n'arrivent pas. Je vais vous dire que le Saint-Esprit est celui que j'ai invité les musiciens à venir nous rejoindre. Et à ce moment-là, on se sent tellement pas capable à l'intérieur de nos vies. Je veux nous dire que le Saint-Esprit est celui qui peut nous rendre capables. Peut-être ce matin, tu es dans ce lieu, mon frère, ma sœur. Peut-être tu as été baptisé du Saint-Esprit depuis bien longtemps. Mais ce matin, tu réalises, alléluia, que cela est souvent bien loin. Je vais juste inviter le piano à pouvoir, le musicien à pouvoir jouer ce matin le chant. Et des fois, on se retrouve devant ça et on est tellement, puis on ne pense pas, on ne réalise pas qu'il y a un paraclet, il y a un consolateur qui est à mes côtés. Peut-être que ce matin, alléluia, tu es dans ce lieu, puis tu as ce que les disciples avaient dans leur vie quand Jésus a parlé de sa mort. Cette boule-là, cette douleur-là, à l'intérieur de ton cœur. Cette douleur-là à l'intérieur de ta vie qui prend place. Et à travers cette douleur, à travers cette souffrance, je veux te dire ce matin, tu as besoin d'une rencontre avec le Saint-Esprit, avec ce Consolateur. Peut-être ce matin, alléluia, il y a des situations particulières. Peut-être que ton couple est en train de casser un matin. Peut-être que ton couple est en train de s'effriter aujourd'hui. Puis tu ne vois pas de solution, puis tu ne vois pas de choses qui prennent place. Peut-être que tu as le goût de juste tout abandonner. Seigneur, comment mes enfants vont venir au Seigneur? Comment, Seigneur, dans ma famille, tu vas pouvoir prendre place d'accomplir et d'agir à l'intérieur de leur vie alors que j'ai essayé tellement d'affaires, que j'ai prié tellement de fois? Je te dis, mon frère, ma sœur, tu as besoin d'une rencontre avec le Saint-Esprit un matin. Peut-être qu'il y a des situations particulières dans laquelle tu te sens tellement petit. Je veux te dire que ce matin, alléluia, tu as besoin d'une rencontre avec le Saint-Esprit pour que tu sois comme Pierre devant ces milliers de personnes, ayant l'audace, la capacité de proclamer. Dans l'année, avant qu'on quitte Sainte-Agathe, je vais terminer avec ça. Après ça, je vais faire. Dans le début de l'année, alors que je ne savais pas qu'on n'était pas quitté, que Dieu nous demanderait de quitter, je me suis senti poussé à amener l'Église dans la dernière, juste avant les fêtes, de « Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu te fasse comme cadeau? » Puis « Quel est le cadeau que tu aimerais faire au Seigneur? » J'avais fait des feuilles, j'avais demandé aux gens d'inscrire. Et moi, j'ai pris une feuille et j'ai inscrit deux choses. J'ai inscrit ce que je voulais donner au Seigneur. Puis j'ai inscrit, alléluia, ce que je demandais au Seigneur. Ce que je vais dire là, les gens ne le savent pas. Même ma famille, je ne sais même pas si elle le dit. Mais sur l'autre, Seigneur, ce que je voudrais comme cadeau, ce n'est pas pour moi. Mais je prie et ma demande, c'est que mes enfants soient baptisés du Saint-Esprit. Que mes enfants soient baptisés du Saint-Esprit. Et ça a été ma prière pendant un certain temps, jusqu'à temps que l'un arrive et me dise, ben, j'ai été baptisé du Saint-Esprit en fin de semaine. Je reprenais ce papier-là, je pense même que je l'ai encore dans ma vie. Je disais, Seigneur, tu m'as donné le cadeau que je t'ai demandé. Je vais vous dire ceci, le baptême du Saint-Esprit, c'est une grâce. C'est pas un mérite. C'est une bénédiction. C'est la raison pour laquelle je vous dis cela ce matin. Que voyez ça comme un cadeau, comme une bénédiction, comme un trésor que Dieu veut donner, que ce que Jésus voulait déployer dans la vie des disciples. Et ce matin, si on peut se tenir debout ensemble, ce qu'on va faire, si vous aimeriez que quelqu'un prie pour vous aujourd'hui, que ce soit pour le baptême du Saint-Esprit, que vous aimeriez d'être baptisé du Saint-Esprit, alléluia, que vous avez besoin d'une rencontre, peut-être que vous avez besoin que le Saint-Esprit enlève la douleur de ce qui est là, la tristesse de ce que le texte dit. Ce que je vais faire, si vous voulez, vous êtes libre, et si vous voulez vous avancer ce matin, juste vous arrêter devant Dieu. Peut-être que tu as besoin que le Saint-Esprit soit là pour une situation particulière dans ta vie. Peut-être que tu étais baptisé depuis bien longtemps, mais tu as besoin. Fais juste venir devant Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va prier avec toi, mais peut-être pas non plus, peu importe. Tiens-toi devant le Seigneur aujourd'hui. Tiens-toi, je veux dire ceci de cette manière-là. Tiens-toi devant le Saint-Esprit aujourd'hui. Savez-vous ce que Jésus a fait avec les disciples? Il les a amenés, alléluia, jusque devant le Saint-Esprit. Ce matin, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, tenons-nous là, alléluia. Alors, on va chanter ce chant. Si vous voulez juste avancer, faites-le sans gêne. Prenons un moment, alléluia, dans la présence de Dieu. Recevoir, si vous aimeriez être baptisé, ça se peut qu'on vous demande si quelqu'un prie pour vous. Est-ce que, quelle est la raison pour laquelle tu aimerais qu'on puisse prier ce matin? Juste le déclarer avec simplicité ce matin. Et on va prier ensemble. Si vous êtes dans l'église, si vous avancez pas, je vais vous encourager à louer le Seigneur à travers le chant de ce matin. À louer Dieu, à exalter le Seigneur à travers le chant de ce matin. Alléluia, que ce lieu en soit de présence, d'adoration, d'exaltation, d'espoir, de rechercher, d'attendre que le Saint-Esprit puisse le faire. Alléluia. Alors chantez ce chant et avançons sans gêne ce matin. Alléluia.